En ce lundi 16 janvier 2023, c'est le moment des traditionnels vœux. Bruno Nourry, maire de L'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Carole Charreau, première adjointe à la mairie de L'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Bruno Nourry, pour commencer, vous pouvez exprimer vos vœux pour cette année 2023 à la population de L'Île-Dieu.
Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, surtout des vœux de bonheur, de santé. Et pour vos proches aussi, et puis on souhaite le meilleur pour L'Île-Dieu, bien sûr. Donc, on espère tous que chacun passera une excellente année après ces deux années de Covid qu'on fait bien souffrir beaucoup de monde.
Carole Charreau, on vous écoute également pour vos vœux.
Oui, c'est plutôt traditionnel, c'est pareil, une bonne santé, beaucoup de bonheur, de bien-être. En tout cas, nous, les élus, on travaille pour vous, et on va vous exprimer justement tout ce qu'on fait, tout ce qui va se faire dans l'année pour que vous soyez bien. C'est ça en fait, le vœu le plus cher, c'est que vous soyez bien.
Le 29 septembre dernier, le préfet de la Vendée a attribué à la commune de L'Île-Dieu le label station classée de tourisme. Qu'est-ce que cela apporte, Bruno Nourry?
Alors c'est un vieux dossier, hein, parce qu'on l'a initié il y a déjà 7 ou 8 ans. Donc, il faut remplir un ensemble de critères qui sont plus ou moins compliqués, mais c'est surtout une reconnaissance de la qualité de l'accueil de la destination touristique. Donc, ça permet de normaliser des pratiques, que tout le monde rame un peu dans le même sens.
Quelles pratiques, par exemple ?
C'est pas l'accessibilité, par exemple, l'accessibilité des sites touristiques.
Notamment pour les personnes handicapées.
Par exemple, c'est aussi la qualité des hébergements, ceci c'est important. Je crois qu'on a besoin d'être tous fiers aussi d'accueillir comme il se doit nos visiteurs. Hein. Donc c'est important de le faire dans de bonnes conditions. La station classée vient couronner un petit peu cette démarche qu'on a initiée il y a plusieurs années. Et donc ça apporte un certain nombre de choses, notamment pour la commune, puisque ça permet de percevoir les droits de mutation à titre onéreux en direct.
Ça veut dire quoi?
Globalement,
les
frais de notaire sur les ventes. Sinon, ça passe par le département avec des clés de répartition, c'est un peu plus complexe, mais ça permet on ne sait pas dans quelle mesure exactement, mais d'abonder le budget communal. Donc c'est important aussi pour les équipements de la commune.
Quand seront terminés les travaux d'aménagement du parking municipal situé à proximité de l'église de Notre-Dame-du-Port?
Alors cet aménagement, on l'a voulu pour aménager les parkings en périphérie du port. Donc celui-ci en faisait partie. Il y avait aussi des questions d'accessibilité, de cheminement, par exemple entre la place de l'église et puis la place du Général Buin, pardon, et la rue Calypso pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça permet de niveler, hein. Il y a beaucoup de dénivelé dans ces espaces.
Nous dites là, ça sera vraiment plat?
Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que la pente sera aux normes. Ouais. Donc ça va permettre de faciliter les transits. Petite nouveauté, donc le parking va être accessible depuis la rue Calypso. Hein, on entrera globalement par là.
Il n'y aura qu'une entrée.
Il y aura l'entrée dans les deux sens. Parce que si on monte la rue Guistot, on pourra tourner sur le parking. Néanmoins, la sortie, le début de la rue Jean-Simon Chassin entre la place du Général Buin et la place du Puy-Ramon sera en sens unique pour la sortie. Elle est assez étroite, on se croise difficilement. Pour les piétons, là aussi, c'est un peu compliqué quand il y a des voitures. Donc voilà, c'est pour faciliter le cadre de vie. Donc au passage, on réaménage la place du Général Buin. Et puis, on augmente un peu le nombre de places de parking, finalement, sur le parking.
Il y aura combien de places?
62 places, dont 2 PMR, à différents niveaux.
PMR pour personnes à mobilité réduite.
Pardon.
Oui. Puis on rajoute un peu de qualitatif, d'embellissement de cet endroit du parc.
De comment la luminosité des arbres ?
Des arbres, entre autres. Il y aura un bel alignement d'arbres. Je vous laisserai le découvrir. Alors, les arbres, ils seront mis calotone, hein, parce que... Et plantes calotone, hein, forcément. Il y aura la réhabilitation, enfin, la réfection de la place du Général Buat. On fait un petit giratoire. On y inscrira la devise de l'île-lieu sur le giratoire. In altum lumen imperfigum. Qui sera inscrit sur le giratoire. Et puis voilà, en termes de mobilier aussi, on va vraiment embellir le coin.
Fin des travaux pour
oui,
ce parking.
Les revêtements seront finis pour fin mars. Il y aura quelques finitions après à suivre, mais il sera opérationnel déjà fin mars.
Il y a aussi sanitaires publics qui vont être ajoutés. Donc ça, c'est bien et accessible, bien sûr.
Il y aura des sanitaires publics sur le parking, c'est ce que vous dites.
Oui.
Pour un montant de combien, ce nouveau parking ? Enfin, cette réhabilitation, pour être précis.
905 000 euros, TTC.
TTC, hein. Sachant qu'on récupère une partie de la TVA, donc plutôt autour de 800 000, on va dire.
Autre projet qui est dans les cartons depuis très longtemps, où en êtes-vous de la piste cyclable ?
Ouais, c'est dans les cartons depuis très longtemps. C'est pas dans les cartons parce qu'on a toujours travaillé sur le sujet, à avoir des autorisations. Enfin, c'était vraiment pas un dossier simple. Ça a l'air de rien, mais...
C'est pour ça que je dis que ça a pris du temps.
Ouais. On a commencé en 2014, donc c'est tout dire, hein.
Et 2014, on est en 2023.
Ouais, donc les travaux, toutes les autorisations, permis d'aménager, etc. Les travaux vont pouvoir débuter là en début d'année.
Début d'année 2023.
Ouais, donc courant 2023, les travaux seront terminés.
Donc cette piste cyclable sera plus grande ?
C'est pas qu'elle sera plus grande, c'est une boucle cyclable, c'est permettre de faire du vélo en sécurité, on va dire. Et sur des itinéraires adaptés. Donc, pareil, en termes de revêtements, etc., ça va être plus confortable.
Cette boucle sera ouverte à partir de quand ?
Bah, dès qu'elle sera réalisée.
Donc, quand sera-t-elle réalisée ?
Courant de l'année, je ne sais pas si on aura fini au printemps ou s'il faudra finir à l'automne. Voilà, c'est ça la question.
Donc, cet été 2023, cette boucle sera ouverte ?
En partie.
En partie.
Au moins.
Voilà, et puis... Comme disait Monsieur le maire, par exemple, vous savez, juste à côté du vieux château, quand on descend, là, c'est très abrupt et tout. Donc là, ça va être aplani, ça va être modifié, il n'y aura plus de grosses roches. Surtout quand on a des enfants derrière les vélos, c'est important qu'on puisse rouler en toute sécurité. Là, on est obligé de mettre le pied à terre, donc ça ne sera plus comme ça.
Ce sera plus comme ça. Cet aménagement sera fait pour cette année 2023 ?
Oui, oui.
Pour la saison 2023 ?
Oui.
On parle de sport, le cyclisme, c'est un peu de sport. Les équipements sportifs, Carole Charouf, est-ce qu'il y a des nouveaux équipements sportifs pour cette année 2023 ou c'est une continuité ?
Alors, c'est une continuité. C'est quand même un mandat de sport. Hein. On l'avait annoncé dès le départ. Donc, depuis le début de mandat, on a fait le revêtement de la salle, le bassin d'apprentissage, le skatepark, le terrain de tennis qui est devenu un terrain de multisport, le panier de basket aussi. On a mis un panier de basket juste à côté du terrain de foot. Et donc là, on va mettre des aires de jeu dans les bois des coucous pour les enfants. Et puis aussi, à côté de l'enceinte à côté du cimetière, vous savez, ces jeux-là, ils sont obsolètes, un peu dégradés. Donc, on va les remplacer.
À partir de quand ?
Normalement, ce sera fait dans 2023. On va essayer. Les barrières aussi qui entourent le bassin et le terrain multisport, parce qu'il y a plein de ballons qui passent par-dessus. Donc, ça coûte cher, hein, tout ça. Donc, on le fait petit à petit. On aménage. Et puis, grande nouveauté aussi, on va faire un pump track. Un pump track. Alors, qu'est-ce que c'est ?
En fait, un pump track.
Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pas trouvé l'équivalent en français. Donc, voilà, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est un cheminement avec des bosses. Et en fait, tout le monde peut aller dessus avec tout ce qui roule. Genre trottinette, BMX, petit vélo, patin à roulettes. Et en fait, avec la force qu'on déploie pour aller sur cette bosse, on n'est pas obligé de pédaler. Vous voyez ? C'est... pour aller
c'est d'un... C'est un peu les montagnes russes.
Voilà. Ouais. Donc, c'est très populaire et ça plaît beaucoup aux petits. Donc, comme on a beaucoup, beaucoup de monde sur le skatepark, des petits, des grands. Donc là, ça sera plus pour les petits, pour qu'ils puissent s'amuser autant que les grands qui sont sur le skatepark.
Ce pump track, il sera installé où ?
Alors, juste en face, normalement, du skatepark, de l'autre côté de la route.
À la salle du sport, quoi, pour
oui.
être précis.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et puis, on va faire aussi un espace de sport extérieur pour les petits devant le terrain de multisport, toujours dans l'optique de délocaliser, de mettre les enfants qui sont plus petits hors du skatepark, parce qu'il y a beaucoup de grands sur ce skatepark et bon, il y a des risques d'accident. On n'en a pas eu pour l'instant, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde. On est victime de notre succès. Donc, on va faire un terrain comme ça, juste en face de la piscine.
Ce pump track, il sera ouvert à partir de quand ?
Alors, normalement, il devra se faire là, en 2023. Alors, les travaux, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'ils vont être faits, mais ça devrait aller très vite. Hein. C'est des plaques qui sont posées sur le sol, donc il n'y a pas de gros travaux à faire.
Après le sport, la culture, le pôle culturel va ouvrir ses portes à partir de quand ? Où en êtes-vous des travaux ? Deux questions en une.
Oui, deux questions en une. Les travaux ont été arrêtés, ouais, parce qu'on a eu une défaillance de l'entreprise de charpente. Donc ça a bloqué tous les autres corps de métier. Ça n'a pas été simple parce que c'est une entreprise qui a déposé le bilan, etc. Bref, on a réussi à se désengager avec ces sociétés. On a pu retrouver une autre société pour réaliser ces travaux. Donc, ça va pouvoir redémarrer.
Redémarrer à partir de quand ?
Là, sous peu, parce que le marché est signifié, donc le temps qu'ils se mettent...
mois de mars, normalement. Oui,
c'est ça, le temps qu'ils se mettent en route, on va dire. Et pour une livraison, bon, j'espère à l'été 2024.
Donc, il reste un an et demi avant que ce pôle culturel soit finalisé.
Une grosse année, ouais, un peu plus d'une année.
On reste dans la culture avec le Grand Phare. Carole ou Bruno Fin.
Alors, ça va être un super projet. Hein.
Ouais,
c'est vrai.
Ouais. Alors, c'est un vieux
parlez
projet.
Parlez-nous de ce projet.
Parce que voilà, on avait dans l'idée déjà au dernier mandat de faire, alors peut-être pompeusement, maison de la nature, maison de l'île-dieu, on appelle ça comme on veut, mais surtout un endroit où on puisse faire de la médiation autour de l'environnement avec les associations. Qui gravitent autour de l'environnement.
Hein. On pense notamment à Yeudemain.
Yeudemain, la LPO.
Odysseyeux.
Je vais en oublier.
le collectif agricole.
Le collectif agricole, voilà. Et de pouvoir voilà, faire des lieux d'exposition autour de notre environnement, mais aussi de notre patrimoine, notamment bâti. On avait jeté notre dévolu sur le Grand Phare parce que le site s'y prêtait. C'était déjà un lieu de visite.
Il y a déjà de la place.
Et il y a
c'est
de
grand.
La place, c'est grand. Et puis il y a des bâtiments qui sont inoccupés et délabrés.
Donc le but, c'est remettre au goût du jour ces bâtiments, non ?
Oui. Alors on a discuté avec les Phares et Balises hein, qui gèrent le site, on va dire, pour le compte de l'État. Eux, ils vont garder bien sûr le fût du phare avec la lanterne et puis l'atelier technique derrière. Les autres bâtiments ne servant plus, voilà, ils vont nous les rétrocéder. Donc il y a eu des discussions avec France Domaine. On a délibéré pour faire un bail emphytéotique. Donc il est en cours de signature, il va nous être mis. Et puis on a cherché à avoir. Commencer à avoir des subventions pour réhabiliter le site. Donc, on a participé au loto du patrimoine. Donc, ça a permis d'avoir...
215 000 euros.
Ouais, 215 000 euros.
C'est pas rien.
Hein. Ouais. Loto du patrimoine, c'est avec Stéphane Merne.
Ouais, c'est ça. Et auquel s'est ajoutée une autre fondation, la fondation AXA, qu'on remercie vivement aussi, qui va participer à hauteur de 100 000 euros aussi. Donc, voilà, c'est plutôt... de bon augure pour entamer ce projet.
Ce projet, il coûte combien ?
Il coûte 2,4 millions d'euros.
Ouais, ça c'était...
Ouais, ça c'était il y a un petit peu de temps.
Hein. Oui, et puis c'était...
Ouais, c'était le tout début.
au maximum, non, on ne sera pas à ce prix-là.
Ouais.
Après, il reste à affiner, c'est-à-dire que c'était une étude d'opportunité qu'on avait fait. Donc voilà, c'était des chiffres un peu à la louche. Aujourd'hui, on est en train de s'adjoindre les services d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence la SPL, Société Publique Locale, enfin Vendée Expansion, on va dire, pour diligenter derrière une maîtrise d'œuvre pour faire les travaux. Donc ça reste à affiner, même le contenu reste à affiner. On va pouvoir commencer ces études cette année.
Début des études cette année et début des travaux de réhabilitation quand ?
Moi, je ne sais pas trop parce que voir les études, savoir ce qu'on met dedans, etc., définition du programme, lancer un appel d'offres pour retenir la maîtrise d'œuvre. Derrière, ça va être un permis de construire et ou permis d'aménager. On est quand même en site naturel. Après lancer les appels d'offres pour les travaux, ce ne sera pas avant 2024 pour un début de travaux.
Début de travaux 2024, ce que vous nous dites.
J'espère. tu vois bien la piste cyclable, je ne vais pas faire un dessin.
C'est ce que j'allais vous dire. On reste dans le patrimoine avec l'estacade. Oui. Réhabilitation de l'estacade comme avant ou pas ?
Alors,
est-ce que déjà réhabilitation, c'est quand même une bonne
déjà,
nouvelle.
Déjà, voilà, c'est ça, c'est une super nouvelle. On a eu l'aval du département qui va pouvoir financer une nouvelle estacade. Donc ça, c'est un combat de longue haleine aussi.
Ouais, je voudrais souligner l'action de Carole sur ce sujet, parce que c'était pas gagné, parce que ça pouvait être vite fait très onéreux. Et on a réussi à convaincre, Carole surtout a réussi à convaincre le département pour sa réhabilitation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Car l'estacade fait partie du département, Carole Charvaux.
Oui.
Le port appartient au département.
Tout ce qui est infrastructure portuaire, c'est le département. Et c'est vrai que l'estacade, c'est pas pour amarrer un bateau. Il a fallu batailler pour convaincre que ça fait partie du patrimoine maritime, qu'elle nous est chère, cette estacade, ça rappelle plein de souvenirs, et que ces poteaux-là, en entrant au port, c'est pas terrible, terrible, quoi, au niveau de l'esthétisme. Donc, on va faire une estacade, bien sûr, sécurisée, donc elle ne sera pas à l'identique par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est certain. Les normes ont changé, il faut qu'elle puisse perdurer dans le temps, ce sera pas en bois comme avant. Donc, on va essayer de la rendre belle, mais de toute façon, ça sera pas comme avant. Ça,
ce
c'est
sera
sûr.
Pas la même de
ça,
toute façon.
Ça, c'est sûr.
Ça va être comment alors ? Est-ce que vous avez déjà des plans ?
Non, mais tu vois bien, là, c'était des rails en fer, etc., rivetés. On ne peut pas refaire ça à l'identique. Là, ça coûterait.
Ça coûterait vraiment trop cher, ce que vous
n'êtes. Oui. Donc, ça va être ce qui se fait dans les ports, plutôt des passerelles qu'on trouve dans les ports aujourd'hui, donc en alu, quoi.
Début des travaux de cette estacade, quand ? Carole Charvaux.
Oh, on espère l'année prochaine, ou fin d'année de cette année.
Printemps 2024, ouais. Normalement.
Beaucoup de projets pour cette année 2023, voire 2024, voire 2025.
Ouais.
Le quartier des usines va-t-il être réhabilité ?
Oui, tout à fait, parce que c'est la liaison entre la zone commerciale autour de Super-U et puis le port. Donc on a un ensemble de bâtis ou d'espaces qui sont communaux, pour la plupart. Donc, ça permet de faire des choses. J'avais déjà dit aussi avant, on s'est organisé pour que l'utilisation actuelle de ces espaces puisse se faire ailleurs. Je pense à la fête des fleurs notamment. Donc on a construit un hangar pour les bus en zone artisanale qui va permettre d'accueillir la fête des fleurs. Donc aujourd'hui, on peut entamer un projet. Alors on s'y est attelé dès le début du mandat pour définir un peu le contenu de l'aspect, mais aussi sur le reste du quartier. Donc l'idée, c'est de faire une zone commerciale en rez-de-chaussée.
Par exemple, un marché couvert, non ? Ou des boutiques ? Ou les deux ?
C'est trop réducteur.
Expliquez-nous alors.
Non, mais je ne suis pas sûr que de bouger le marché du port soit une bonne chose. Par contre, sur cet espace, s'il y a des traiteurs, voilà, on peut manger sur place. Donc après, voilà, chacun verra midi à sa porte. Mais c'est plutôt des espaces qu'on voit ailleurs, des halles couvertes avec différentes espaces commerciaux.
Ce que vous nous dites, c'est que ces espaces seront modulables. Il pourra avoir, par exemple, une personne qui vend des sandwichs, une personne qui fait de la restauration rapide, j'en passe des
meilleurs. Oui.
Ou des boissons.
Un boulanger, quelqu'un qui fait des boissons, quelqu'un qui... on veut y mettre la fabrique aussi, hein, parce qu'on va bouger le quartier plus loin, donc... ben oui, c'était provisoire, la fabrique. Voilà, donc il y a un certain nombre d'entreprises à mettre ou remettre dans cet espace. À l'étage, déjà, faire une salle polyvalente pour remplacer le chapiteau de la citadelle.
Ce que vous nous dites, le chapiteau va disparaître ?
Ben oui, c'était provisoire aussi.
Le provisoire dure longtemps, des fois.
Ben, dure longtemps et il a rendu beaucoup de services. Donc, c'est très bien, mais bon, il y a un moment donné, il faut pouvoir passer à autre chose, parce qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser l'hiver. Enfin, voilà, ça pose un certain nombre de problèmes, mais c'était une solution provisoire qui a rendu de bien des offices.
Une salle polyvalente au premier étage, c'est ce que vous nous dites.
Oui, avec... c'est ce dont à quoi on s'était engagé lors des municipales. Hein. Donc, il y a le parking à côté, voilà, ça permet de faire les choses. Faire des
ce parking va être aussi réhabilité
co-working, hein.
Ce parking va être aussi réhabilité.
Oui. Les études sont en cours, réhabiliter, réaménager, voilà, on reviendra en reparler. Le moment venu, ça c'est un peu trop jeune. Donc un espace de coworking, donc les gens puissent aller travailler, télétravailler là-bas. Et puis voilà, ça reste à définir, sont ça les grandes lignes. Parallèlement, on a l'ambition de rénover l'ensemble du quartier. Hein. Donc, j'ai envie de dire, entre l'ancienne école du Puy et l'ancienne caserne des pompiers, de pouvoir remettre un front bâti avec des logements ici. Alors, j'entends souvent dire, ouais, dans l'aspect, il faut faire des logements. Il faut tuer dans l'œuf cette idée. Ce n'est pas un bâtiment qui est adapté pour ça. On va se retrouver avec des logements tout en longueur avec une seule fenêtre, enfin c'est juste pas possible quoi. Et par contre les logements en bord de voie qui sont adaptés, construits pour ça, voilà, c'est plutôt plus adapté, on va dire. Donc pour ce faire, on s'est fait accompagner, hein, le site de la SPL, Vendée Expansion. On est en train de recruter des maîtrises d'œuvre et puis un cabinet d'urbanisme pour voilà, mettre en musique un peu tout ça.
L'ancienne caserne des pompiers va devenir des logements, ce que vous nous avez dit.
Non, j'ai dit qu'on allait l'écrouler pour...
pour en faire des logements.
Ouais, en fait, toute cette ligne entre l'ancienne caserne aller jusqu'à l'école du Puy, voilà, des logements. On laissera un bout de place du Puy, hein, forcément, mais on va refaire un logement.
Et le bâtiment en face, où il y avait le magasin d'ameublement, ça va devenir quoi ?
Mais je ne peux pas trop en parler, parce qu'on est toujours en expertise d'assurance et autres. Ouais, c'est long.
Depuis quand ?
Bah, depuis,
depuis que vous êtes en expertise d'assurance ?
Ouais.
Depuis la tempête.
Alors, la tempête de quelle année, Carole Charouf ?
Je
ne
me rappelle plus, ça fait au moins 3-4 ans.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
Donc et puis pour l'instant, c'est renvoi de balles d'assurance en assurance, c'est ce que vous nous dites.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, d'expertise, de points de vue différents, etc.
Le point final de ces expertises seront finalisées.
J'ai pas de calendrier.
Vous avez pas de calendrier.
Maintenant, bon, l'idée à terme, c'est quand même de raser le bâtiment.
On parle d'agrandissement, d'expansion. Il y a un projet d'agrandissement de l'école du Ponant, Carole Charouf.
Oui, en fait, les effectifs sont... Enfin, l'école du Ponant, elle est pleine comme un œuf, en parlant. En fait, on veut agrandir l'école du Ponant avec trois salles. Une salle pour le périscolaire, parce qu'on accueille actuellement, par exemple, 80 enfants chaque soir. Donc, en fait, ils sont regroupés dans une toute petite salle qui est au bout de l'école du Ponant. Et en fait, bah non, c'est pas possible. 80 enfants dans une seule salle, vous voyez bien comment ça peut se passer.
Ça dépend de la salle.
Oui, mais elle est quand même...
Même
si elle est grande, ça fait quand même beaucoup d'enfants dans une seule salle. Donc, en fait, on voudrait faire une autre salle de périscolaire, une salle d'art plastique et aussi une salle de restauration digne de ce nom. Parce qu'actuellement, les élèves de maternelle mangent tous les midis dans le hall. Normalement, c'était un hall pour faire des expositions temporaires. Donc,
oui,
ça s'est
transformé.
Voilà, le hall d'accueil. Et en fait, c'est là où on, pour expliquer aux gens, c'est là où on vote. Pour ceux qui votent là-bas, c'est là où on vote. Donc, tous les midis, on est obligé de mettre les enfants là à manger. Et ils sont plus de 70 à manger là. Donc, c'est très inconfortable, hein, aussi bien pour les animateurs que pour les enfants.
Ce que j'allais vous dire, ça doit être sport pour les animateurs.
Oui, c'est pas terrible, hein, comme condition de travail. On en est conscient, mais en même temps, ces petits, ben, fallait bien les faire manger quelque part. Donc, on a décidé qu'ils seraient là plutôt que dans le collège. De toute façon, le collège, il n'y a pas assez de place. Donc, on n'avait que cette solution. Donc, il y a 70 enfants qui vont plutôt aller dans cette nouvelle salle de restauration qui sera... Donc, les trois salles, elles seront juste à côté du collège, à côté aussi du complexe. Hein. Ça va être bâti, c'est sûr. Hein. On va amplifier les bâtiments, mais c'est nécessaire.
Début de cet agrandissement ou de ces
Alors,
agrandissements.
Là, on est vraiment, vraiment au tout début du projet. On a rencontré les architectes pour voir les matériaux. On aimerait des matériaux biosourcés. Donc, voilà, ça commence juste les études. Donc, j'ai pas trop de délais. Peut-être 2025,
ouais,
on aimerait
faudra,
bien.
Après, une fois qu'on sera d'accord sur le programme, c'est déjà bien avancé, mais qu'il fasse des esquisses, etc., qu'on ait les allers-retours, qu'on valide l'avant-projet sommaire, puis l'avant-projet détaillé avec les coûts, qu'on valide le plan de financement. derrière, dépôt de permis de construire, donc lui aussi qui prend du temps, puis après solliciter les entreprises par appel d'offres et puis construire. Oui, ça va prendre un petit peu de temps. Ouais.
Et puis oublier aussi là, une salle de classe, hein, bien sûr, pour remplacer le modulaire qui est dans la cour, qui prend une bonne partie de la cour, ce modulaire qui est là depuis plus de 2 ans. Donc on va construire une nouvelle classe dans cet agrandissement.
En parlant d'aménagement du territoire, le pôle solidarité, où en êtes-vous ?
Alors déjà, pour expliquer ce que c'est le pôle de solidarité...
J'allais vous poser la question.
C'est un regroupement de plein de choses entre le Centre communal d'action sociale, donc le CCAS, les services d'aide à domicile, l'ADMR, la MDSF, donc la Maison départementale de la solidarité et la famille. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est la PMI, la protection maternelle et infantile, les assistantes sociales, le multi-accueil, tout ça, ça sera dans ce même pôle. Et donc, ce pôle se fera juste en face du collège des Sicardières, effectivement.
Ce pôle, le début des travaux, quand ?
Alors, le début des travaux, c'est en 2023. La consultation des entreprises est, oui, en 2023. Les travaux, fin 2023. Donc, on espère une livraison fin 2024, si tout se passe bien.
Toujours, si tout se passe bien.
Ben oui, parce qu'on est quand même échaudés, hein.
Beaucoup de personnes cherchent un logement ou à devenir propriétaire. Avez-vous des plans d'action en cours pour cette année 2023 ou durant les années à venir, Bruno Nourry ou Karl Scharouf ?
On a surtout des plans d'action depuis bien longtemps. Hein.
Bien longtemps, mais il n'y a pas grand-chose qui sort de terre.
Si, quand même. On oublie vite. C'est
peut-être ça aussi. Hein.
Oui, oui. Non, mais on a fait ces dernières années beaucoup d'acquisitions foncières. Hein, c'est pas neutre. C'est aussi pouvoir se projeter à long terme. Après, là, en cours, on a deux projets de lotissement. Un à la Chironnière qui avance un peu plus vite que celui de la Tonnelle. C'est un peu laborieux avec le bureau d'études, je vous le cache pas. Faut s'énerver de temps en temps. Mais bon, on va y arriver. Il devrait être opérationnel dans le courant de l'année. Hein. Oui.
Pour combien de logements ?
De mémoire, à la Chironnière, c'est 9 lots plus un lot Vendée Habitat. Et sur la Tonnelle, c'est pas complètement figé, mais on va être aux alentours de 25 lots en tout, à peu près, quoi.
25 lots, donc 25 logements, pour être précis.
Oui, ouais, ouais, c'est ça, ouais. On avait quelques terrains qu'on pouvait commercialiser immédiatement, qu'on a un peu à droite, à gauche. On avait fait un appel, les gens se sont inscrits sur des listes, donc on va déjà pouvoir les attribuer, hein, il s'agit de 5 terrains. On va avoir une autre salle sur les lotissements, et une autre aussi, parce qu'on a un certain nombre de biens 100 mètres qui sont retournés dans le giron communal, donc il y en a qui sont commercialisables immédiatement, d'autres... d'autres qui nécessitent du découpage, mais bon, voilà, ça va suivre. Donc ça, c'est pour l'aspect mise à disposition de terrain pour bâtir. Hein. On travaille avec Vendée Habitat, donc on a toujours notre lotissement Aurieux à Saint-Sauveur. Vendée Habitat a beau relancer les appels d'offres, on ne trouve pas de personnes pour le gros œuvre, à savoir, on ne trouve pas de maçons. Donc ça devient problématique parce que ce projet devrait être quasi terminé.
Et pour l'instant, vous en êtes où de ce projet ?
Ben, vous en êtes où ? Ils en seront où pour être ben, ils relancent les appels d'offres. Hein. Voilà.
Ouais, ça a le don de vous énerver, ça s'entend dans votre voix,
ben,
Bruno
oui,
Norris.
Ben oui, parce que le logement, c'est quand même crucial. Et puis quand on bloque voilà, sur... on ne trouve pas d'entreprise pour réaliser, c'est un peu dommage. Quoi. On a d'autres projets avec Vendée Habitat, hein, que ce soit sur les lotissements, mais aussi sur d'autres bouts de parcelles à droite à gauche qu'on avait. Donc, ils travaillent dessus. Par ailleurs, on a recruté un chargé de mission sur l'habitat, enfin une chargée de mission, pour être exact.
Ça va être quoi son rôle ?
Ben, son rôle, ça va être à plusieurs niveaux. Un, suivre la plateforme de rénovation de l'habitat. Deux, de conseiller, d'aider les gens pour faire du locatif à l'année. Nous accompagner aussi dans nos démarches d'élaboration foncière. Parce que je ne vous cache pas que c'est quand même pas simple. Je ne cite qu'un exemple, mais auparavant, quand vous faisiez un lotissement, vous achetiez le terrain, par-dessus vous faisiez les aménagements que vous payez avec TVA, et l'ensemble vous faisiez un prix de sortie pour commercialiser. Il y a 2 ans, le Conseil d'État a jugé que maintenant sur le terrain il fallait appliquer une TVA. Donc on se prend une TVA sur le terrain, donc ça augmente le prix du mètre carré accessible. Alors oui, mais pas sur les terrains qui ont été achetés avant telle date, etc. Enfin, il y a des petites subtilités. Et dans ce genre de subtilités, il y a toutes les politiques de logement en France, zone tendue, pas zone tendue, zone B1, B2. C'est un peu compliqué dans les critères, dans les sollicitations auprès de l'État pour avoir un certain nombre de reconnaissances. Et donc cette personne va nous accompagner pour être dans les bons wagons, on va dire.
Dernière question, à quand la fibre pour les particuliers sur Lisieux ? Carole Charot, ça vous fait sourire. Oui. Pourquoi ça vous fait sourire ?
Parce que le président du conseil départemental est très...
Alain Leboeuf.
Oui, monsieur Alain Leboeuf, qui était donc président du CIDEV lors du dernier mandat. Et c'est un dossier qui lui tient à cœur, la fibre. Et donc, la Vendée est fière d'annoncer qu'en 2022, ils ont mis 140 000 prises sur la Vendée. Et donc, sur Lisieux, c'est pareil. On va avoir notre fibre, normalement, en fin 2023, comme c'était prévu au départ. Donc, on va pouvoir se fibrer, aussi bien les particuliers que les entreprises. Enfin, c'est ce qui est annoncé. Et moi, j'y crois. Toutes les promesses qu'ils ont faites ont été tenues.
Donc, fin 2023, tous les particuliers pourront avoir accès à la fibre sur l'Île-Dieu.
Oui, normalement, après, ils doivent forcément aller voir leur fournisseur, hein, Orange, qui, en fait, c'est le département qui, si je ne dis pas d'erreur...
Qui gère les infrastructures, voilà. Et le particulier contacte son fournisseur pour avoir la fibre.
Directement.
Ouais. Oui, parce que c'est ça, les fournisseurs d'accès à Internet vont être locataires du réseau.
Bruno Nourry, maire de l'Île-d'Yeux, un dernier mot avant de se dire au revoir.
Il nous reste un petit peu de temps. Juste pour renouveler tous nos bons voeux pour cette nouvelle année de bonheur et de santé. Portez-vous bien et que l'année vous soit propice.
Carole Charot, dernier mot avant de se dire au revoir. Première adjointe à la mairie de Dieu.
C'est exactement la même chose. Bonne année à tous. Merci à vous.
Merci à vous d'être venus sur Neptune FM. À très bientôt.